France Inter.
Depuis ton départ, Lyon est une gare, et moi je suis resté lyonnais. Tu es sur la ligne, moi à la consigne, avec mes pièces de monnaie. Et les tours d'horloge me serrent la gorge, chaque seconde me tue. Sait-on où tu loges, quand reviendras-tu? Comme ces questions sont pointues. Et le long du Rhône, c'est pour ton fantôme que je laisse pendre ma main, maudissant ton nom, car du cabanon tu me fais prendre le chemin. Et les tours d'horloge me serrent la gorge, chaque seconde me tue. Sait-on où tu loges, quand reviendras-tu? Comme ces questions sont pointues. Comme ces questions sont pointues. Et puis tu reviens dans mon quotidien, j'apprends par le carnet du jour qu'aujourd'hui les cloches célèbrent tes noces avec un autre, mon amour. Et les tours d'horloge me serrent la gorge, chaque seconde me tue. Sait-on où tu loges, quand reviendras-tu? Comme ces questions sont pointues. Quand d'autres rencontres dérèglent ma montre, alors je connais le repos. Mais à chaque fois que j'ai vent de toi, je cavale après mon chapeau. Et les tours d'horloge me serrent la gorge, chaque seconde me tue. Sait-on où tu loges, quand reviendras-tu? Comme ces questions sont pointues. Comme ces questions sont pointues.
Bonjour Thomas Fersen.
Bonjour.
Je précise Thomas et pas Thomas. Hein.
C'est comme on veut.
On entend souvent Thomas Fersen.
Bah oui, mais ça ne me dérange pas. Vous savez, je trouve ça joli aussi, Thomas Fersen. C'est romanesque.
Vous qui aimez la littérature. Les tours d'horloge, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Les tours d'horloge me serrent la gorge. Chaque seconde me tue. Le temps qui passe inexorablement, le temps qui tue l'amour parfois, qui nous avance vers la mort, est-ce que c'est quelque chose de terrifiant ou au contraire, le fait de vieillir, c'est quelque chose que vous appréciez?
Comme vos questions sont pointues.
Mais il y a des réponses dans vos chansons.
Le temps qui passe, je n'ai pas eu conscience pendant des décennies. Voilà. Et puis à un moment, j'avais toujours l'impression que j'aurais le temps de faire plus tard, donc plus tard, toujours plus tard. Puis j'ai commencé à écrire un livre au moment du Covid en 2020. J'ai vu que ça prenait du temps.
Le livre, c'est Dieu sur Terre.
C'est Dieu sur Terre. J'ai vu que ça prenait du temps et que j'ai commencé à faire des calculs comme ça et j'ai donc pris conscience, une conscience totalement subjective du temps. De toute façon, le temps ne nous appartient pas, bien entendu. Donc, voilà, c'est souvent des considérations un peu creuses qu'on fait sur le temps, je crois.
Oui, mais on en fait des chansons, la preuve.
Oui.
Et puis, vieillir, peut-être qu'on sent qu'on maîtrise davantage son art.
Oh non.
Non ?
Oh non, je pense que le doute augmente avec le temps. Parce que quand on a du temps devant soi, on est toujours convaincu qu'on va faire mieux. qu'on va vers le progrès. Alors, le temps passant, on se dit qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire mieux.
Vous n'avez pas senti que vous faisiez des progrès, vous, dans votre carrière, qui a quand même maintenant une trentaine d'années?
Une évolution. Dans la chanson, ce qui est particulier dans la chanson, c'est que la naïveté est une force. Donc, on la perd en vieillissant, on gagne autre chose. Voilà. Donc, c'est un changement, mais je dirais pas on s'améliore dans certains domaines, mais on va vers autre chose. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre celui qu'on était il y a 30 ans et celui d'aujourd'hui.
Vieillir, ça permet d'avoir un répertoire, de piocher dedans et de sortir un disque bientôt, fin février, avec d'anciennes chansons réorchestrées, réarrangées.
Oui, en fait, l'idée, c'était qu'il y a 2 ans, je me rendais compte que ça fait l'anniversaire de la sortie de... C'était l'anniversaire, les 30 ans de la sortie de mon premier album, Le Bal des Oiseaux. Donc, bon, je ne suis pas très anniversaire, mais j'ai proposé à Vincent Frère-Baud qu'on le fête ensemble.
C'est le patron du label Tôt ou Tard.
Voilà, à ce moment-là, j'étais plus chez Tôt ou Tard, et donc je lui ai dit, écoute, moi, si on fait quelque chose, si je fais quelque chose, c'est avec toi, je ne vais pas faire un anniversaire tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Donc on était d'accord, il était très content, et moi aussi de ce rapprochement, parce qu'on tient beaucoup l'un à l'autre. Et puis, on a eu évidemment cette idée d'aller chercher des chansons dans le répertoire, mais enfin, ça ne nous suffisait pas. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'il y ait une motivation qui soit supplémentaire, quelque chose qui soit de l'ordre de la création. Et donc, on a fait appel à Clément Ducol, parce que, bon, d'abord, Clément avait manifesté le désir de faire quelque chose avec moi 2 années auparavant. Et puis, quand on vieillit, vous parliez
De ce fichu temps qui passe,
on a évidemment tous tendance à aller vers le dépouillement, la vérité de soi-même.
Oui. Enfin,
et il se trouve que c'est justement le dépouillement, c'est quelque chose que Clément maîtrise très bien. Il sait déshabiller une chanson et lui donner quelques petites touches comme ça qui la font vivre entièrement. Il a beaucoup fait ça avec Camille.
Et c'est sa compagne Camille, et ils travaillent ensemble.
Voilà, il fait un travail admirable. Donc on lui a donné les chansons et carte blanche. Et donc lui, il a dit, moi je voudrais associer Thomas au trio SR9, qui est un trio de percussionnistes. Et donc nous, ça nous a beaucoup plu. D'abord parce que tout de suite, moi, j'ai imaginé les volutes autour de moi, de ces vibrations dans un théâtre. Et puis j'avais des références cinématographiques et musicales avec ces instruments, marimba, glockenspiel.
C'est des très beaux noms en plus.
Oui, c'est un magasin de jouets.
Piano préparé. C'est poétique à souhait.
Et les vers aussi, il y a quelque chose de magique. Donc je sentais que ces instruments et les arrangements de Clément allaient rajouter une irréalité à mes chansons et augmenter au moins les réalités de mes chansons et de mes personnages. Voilà.
C'est vrai, et puis il y a quelque chose d'un petit peu onirique aussi. Et d'hypnotique, je dirais.
Hypnotique et doux. C'est très doux. Alors, je disais tout à l'heure, les percussions, on n'imagine pas que ça puisse être doux, mais c'est extrêmement doux,
oui.
Les percussions.
La preuve, on vient de l'entendre, et on écoutera encore certaines des chansons de ce disque qui sort le 28 février, et puis il y aura la scène aussi qui va commencer en mars. Je vais juste citer le trio. On a cité le patron, Clément Ducol, Alexandre Esperet, Nicolas Cousin et Paul Changarnier. Je vous propose, dans la balade Thomas Fersen, de parler de vous écouter, mais on se propose aussi de demander aux artistes qui viennent de nous dire ce qu'ils aiment bien en ce moment comme chanson. Et vous avez, entre autres, choisi la chanteuse, autrice, compositrice, interprète, Solane.
Alors Solane, je l'ai croisée au Francofolie de La Rochelle l'été dernier, car je jouais après elle, et donc j'ai pu la voir sur scène, une petite partie. J'ai trouvé qu'elle avait une grande force intérieure, une colère, du charme. Et donc, quand vous m'avez proposé des artistes, voilà, j'ai choisi son nom.
Elle se définit comme une sorcière réconfortante. Je me suis dit que ça plaisait à l'auteur de contes, de chansons contes, Thomas Fersen.
Oui, le musicien, c'est presque magicien, oui. J'ai pas le magicien à sorcier, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire non plus.
Solane, Les Ogres, c'est la balade de Thomas Fersen sur Inter.
Ça fait quelques années maintenant que je suis lentement entre la rage et l'apathie. Non, plutôt régulièrement pour te dire à quel point les plus grands sont en fait petits. À coups de lumière et de couleurs dans le téléviseur, on te vend Goliath en David. Si bien que je me m'étonnerai pas de sentir de mes mains les parois de sa bouche avide. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Assis tout en haut de la tour de Babel. Et je me souhaite d'y mettre le feu, quitte à finir dans les flammes, autant le faire avec eux. C'est pas une question de fin l'amour, pas la guerre. Ils ont vendu les deux, ils ont vendu les deux. Ni même de croire en un ciel moins amer. Ils ont vendu les dieux, ils ont vendu les dieux. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé. Si je restais promis, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Moi dans les flots, vous dans votre appétit. Si je restais promis, vous vous noirez aussi. Et rien ne va depuis que les ogres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Et rien.
Thomas Fersen, dans les années 80-90, on aurait peut-être pu vous croiser dans la rue, à Paris ou en banlieue, en train d'installer des câbles, parce que vous êtes titulaire d'un BTS électronique obtenu en 85, et vous travaillez comme câbleur à l'époque à mi-temps. Est-ce que c'était pour vous offrir une guitare, ou un petit clavier, ou un synthétiseur, ou préparer votre studio? Parce que j'imagine que le jeune câbleur était aussi jeune musicien déjà.
Je l'étais avant même, et puis j'ai fait effectivement des études électroniques assez laborieuses, parce que j'avais pas beaucoup le goût de ça. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme avec difficulté, je me suis inscrit à la NPE, et la NPE m'a trouvé du travail dans les 15 jours. Et puis voilà, j'ai fait ça à mi-temps parce que ils m'ont proposé un mi-temps, j'ai accepté parce que ça me laissait du temps pour faire de la musique.
Oui.
Et effectivement, avec les quelques sous que je gagnais, j'essayais de l'investir dans du matériel pour faire des maquettes, voilà.
C'était quoi vos instruments à l'époque ?
Alors j'ai commencé par la guitare, j'ai traîné maman sur la butte, comme je raconte. Et puis on était dans un magasin et je ne savais pas jouer, hein. Ma maman m'a offert ma première guitare. J'ai pris des cours dans un sous-sol de magasin. Et puis plus tard, j'ai eu un petit clavier aussi. Donc j'ai un peu mélangé les deux. En fait, tout de suite, j'ai été attiré par la composition, par la création. Je pense que c'est quelque chose de viscéral chez moi. J'ai toujours aimé fabriquer, créer des choses, inventer des histoires. J'ai inventé le théâtre dans ma chambre, par exemple.
Oui, il paraît que votre mère vous a cousu des petits habits pour inventer des histoires.
Alors, ma mère est d'une lignée de couturières, donc effectivement, elle nous cousait des déguisements. Et moi, elle m'a donné le goût du costume, je peux le dire, oui, effectivement. Et elle a contribué à son insu, à mon attirance pour le spectacle, le théâtre, parce que c'était, encore une fois, quelque chose d'inavoué. J'avais ces activités de façon secrète dans ma chambre, pendant des années.
Et ça n'a pas fait de vous un metteur en scène ni un auteur de théâtre ?
Non, pas du tout, parce que j'ignorais que je faisais du théâtre dans ma chambre. Je ne connaissais même pas le mot.
Vous inventiez des histoires ?
Je jouais, j'incarnais des personnages, oui. Mes partenaires étaient évidemment mon Polochon. Bien souvent, c'était lui qui jouait tous les deux sauts en rôle. Mais oui, j'ai commencé comme ça, par inventer, et quand j'ai eu une guitare, j'ai continué dans cette disposition à inventer tout de suite des choses. Donc j'étais pas un grand instrumentiste, mais j'ai, grâce à ces cours de guitare jazz que je prenais, commencé à composer des chansons, bon, qui... Je ne me souviens plus, c'était très maladroit en tout cas, et j'avais souvent honte de moi.
Oui. C'est passé ?
Ben non, je vous en parlais du doute tout à l'heure, oui. mais je trouvais ça mauvais, enfin je trouvais ça très mauvais.
Mais vous sortez quand même assez vite deux 45 tours qui n'ont pas beaucoup de retombées, mais quand même vous réussissez à être entendu. Et...
Par Vincent Frérebeau, oui, déjà. Qui est la rencontre de ma vie.
Encore une fois, le patron du label Tote. Hein.
Oui, quand on s'est connus, il avait 23 ans, j'en avais 24. Lui avait un peu avait du crédit dans l'industrie musicale parce qu'il avait eu un succès avant chez Pathé Marconi avec un artiste. Et donc on lui avait donné carte blanche pour faire 4 45 tours. Il y en a un des 4 45 tours et ce fut moi. Mais ça n'a pas fonctionné, voilà. Donc et puis après, j'ai fait du piano bar. Bon, il y a quelques péripéties. J'ai fait du piano bar dans un restaurant thaïlandais au sous-sol. Et Vincent est revenu me voir, et en fait, il s'est rendu compte, et moi aussi, bien sûr, que j'apprenais mon métier dans ce sous-sol de restaurant, et que mon répertoire changeait, et était beaucoup moins narcissique, peut-être, et plus orienté vers les autres. Et donc, ce qui est le propre du spectacle, car je suis convaincu que c'est un métier de service.
Ah bon, vous parlez comme ça de votre art ?
Absolument, on le fait pour les autres, on est complètement au service des autres, on doit sacrifier soi-même, même sacrifier son temps et même sa santé, tout. Tout est au service de l'autre, c'est ça le théâtre, c'est même malade, on y va. Quoi.
Oui, puis une fois qu'on est en place, on ne ressent plus de mal-être.
Oui, et puis quand je dis le sacrifice de soi, c'est aussi incarner le ridicule, enfin tout, quoi. Il faut se sacrifier, mais c'est délicieux. Ce qui est délicieux, en fait, c'est de parvenir à se sentir utile. Et ça, c'est un sentiment que j'ai découvert pour la première fois, non pas quand j'étais câbleur, mais en faisant du piano bar, parce que je chantais un slow. Bon, c'était la première fois que je faisais ça. Le premier jour, c'était très sommaire, on n'avait pas de micro, il n'y avait pas de sono, rien du tout. Hein. J'étais avec ma femme à l'époque, qui jouait du piano tourné vers le mur. Et puis moi, je regardais les gens avec ma guitare en chantant, sans micro, comme je l'ai dit. Et un couple danse devant moi, et commence à s'embrasser, et puis... Et je me suis senti utile. Et ça, c'est pour moi les fondements même de ce métier.
Provoquer
c'est être utile aux autres, porter leur existence, les transporter. C'est pas soi, c'est pas le culte de soi. Alors le culte de soi, on pourrait croire que c'est ça, parce qu'évidemment l'image a pris une place énorme depuis la télévision. Mais un artiste, c'est pas ça depuis plus d'un millénaire. C'est pas ça, c'est le sacrifice de soi pour donner quelque chose, pour apporter une réflexion à l'autre, pour... Voilà.
Provoquer quelque chose.
Provoquer quelque chose et vivre des moments de communion.
On va écouter des extraits de votre dernier disque, parce que ce disque, on l'a dit, Le Choix de la Reine, résume votre carrière, parce que vous avez pioché dans votre répertoire, et ces chansons sont réorchestrées par Clément Ducol avec un trio de percussionnistes.
Si je puis me permettre.
Je vous en prie.
Le choix a été fait par Clément lui-même.
D'accord.
Donc la reine, c'est lui, en quelque sorte.
Ah oui, le choix de la reine. Très bien, Clément Ducol.
Je travaille au chapoté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mules en reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Une lionne me souriait. Nous avons marché côte à côte. Je t'ai pardonné pour mes fautes. On aurait dit qu'elle m'accueillait, qu'elle m'attendait depuis longtemps. Je pouvais monter sur son dos et la laisser en faire autant. la peur n'était plus un fardeau. Entre nous régnait la confiance. Je savais avoir son soutien. Au nom d'une tacite alliance, elle savait compter sur le mien. Et dans l'entraide et le respect, foi que nous faisions bon ménage, nous avons traversé la baie en nous relayant pour la nage. Des lèvres Louise, sans des portes d'église, où j'entre le matin, le chapeau à la main. Des lèvres Louise, penses-tu ce qu'elles me disent? Où c'est du caraco, le rubis d'Amégo? Après tout, peu importe, où j'allume ma clope, au premier feu du jour, ou aux foudres de l'amour. Si les miennes se grisent à tes lèvres, Louise. Au café rêvait un lion, devant sa consommation. Il voit venir une abeille, vêtue d'un tailleur querelle, le noir avec le soleil. Une petite merveille, elle grésille, elle bourdonne, avec l'accent de Narbonne. Et gentiment elle butine un diabolo grenadine. Comme l'araignée dans sa galerie, elle guette à l'entrée du couloir et demeure à moitié cachée. Fume une fine cigarette, j'en suis un peu amouraché. Que se passe-t-il quand on s'arrête? Elle vous attrape par la tête, vous traîne au fond du corridor, vous fait entrer dans sa studette, vous mord au cou et vous endort. Très lentement, elle vous découpe, vous mange morceau par morceau, elle garde les yeux pour la soupe et jette les os dans un seau. Mon crâne est posé comme une pomme sur le serpent de ma colonne. La nuit dans cet accoutrement, je sors du placard un vêtement. Quand vous dormez, je hante les ténèbres. Je me promène en costume de zèbre. Je suis squelette, alors évidemment. Je sors du placard un vêtement. Je suis mort et j'en fais pas un drame. Mon job c'est à la foire du trône. C'est moi qui fais crier les femmes. Je suis squelette, autre un fantôme. Il fait très sombre d'un seul coup. Je sens un souffle dans mon cou. Une chauve-souris, elle met un parapluie. Un grand parapluie noir découpé dans la nuit. Par goût du désespoir, car tout glisse sur lui. Une chauve-souris, elle met un parapluie. Elle met un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie. Un grand parapluie noir découpé dans la nuit. Découpé dans la nuit. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit. Une chauve-souris émet un parapluie. Elle va chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir. Où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie venait au Père Lachaise, une vie de bâton de chaise.
K. quelques extraits du disque Le Choix de la Reine, Thomas Fersen, disque qui sort le 28 février. Donc c'était Les Choix de Clément Ducol dans le répertoire de Thomas Fersen et c'était Les Choix d'Anne Weinfeld dans ce disque. Est-ce qu'ils vous conviennent ?
Oui, c'est quel joli montage.
Oui, c'est vrai. Il y a un bestiaire chez Thomas Fersen, on le dit souvent, c'est vrai, comme chez aucun autre chanteur, il y a le bal des oiseaux, la chauve-souris, les papillons, les malheurs du lion. Je voudrais savoir, vous en avez peut-être sans doute beaucoup parlé, mais comment l'animal débarque un jour dans votre univers d'auteur ?
De façon, sans que je m'en rende compte, en fait, je pense que c'est mon goût du langage, et puis j'ai commencé à écrire des chansons, il fallait que ce soit rapide, direct, il fallait planter des personnages, on utilise tout de suite la métaphore animale, parce que la langue française en est truffée de métaphores animales. Elle est venue sans doute de la ruralité, et puis elle est entrée dans les villes comme ça, et voilà, donc bon, je pense que c'est comme ça que c'est venu. Et puis alors, ça a été aussi évidemment mis en exergue par le photographe Jean-Baptiste Mondino qui
a signé pas mal de pochettes de Fersen.
Voilà, et puis à chaque fois il m'associait à un animal. C'était son... Alors, et il a raison parce que c'est spectaculaire un animal. Tout de suite, c'est d'un point de vue pictoral, tout de suite il y a quelque chose, c'est ça. Donc il m'a mis avec un lapin, une tête de cochon, un cheval, un poisson dans la poche.
Et ça a continué d'alimenter vos chansons ?
Et puis voilà, oui, ça continue. Alors du coup, mais j'ai plusieurs imageries. Il y a évidemment celle des animaux, mais il y a aussi celle des accessoires, les parapluies, on vient d'entendre la chose.
C'est vrai.
Les parapluies, les chapeaux, les costumes, les cravates, les complets marrons, comme dans les Malheurs du Lion.
Et le chat beauté.
Et le chat beauté. Et puis, il y a aussi les prénoms de femmes, beaucoup de prénoms de femmes.
Louise.
Louise, par exemple, Irène. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup de chansons aussi comme ça. Et puis, la mort est très présente dans mes chansons. Mmh. Mais c'est la mort en tant qu'imagerie, quoi. C'est pas la mort réelle, jamais.
Vous auriez pu être dessinateur.
Bon, je prends un bon coup de crayon. Non. Vous savez, j'ai un texte là-dessus qui dit « Mon frère a dessiné un cygne ». On s'extasie sur son talent. Chacun reconnaît là les signes de son génie époustouflant. Tout le monde s'accorde pour dire que son signe est hors du commun. Que nous devons tous applaudir le grand artiste des demain. Moi, j'ai dessiné un bonhomme avec un rond et 5 bâtons. Il a une tête difforme, une barbe noire au menton. Dans sa main, il tient un couteau, un très grand couteau de cuistot. Car il a saigné un poulet. Et le sang fait un ruisselet. C'est très mal dessiné, d'accord. Je n'ai pas son coup de crayon. Mais pour qui veut faire un effort, y prêter un peu attention. Le poulet ressemble à un cygne.
Est-ce que vous le direz, ce texte de Thomas Fersen, dans votre spectacle à venir ?
Écoutez, probablement, je suis en train de le construire, ce spectacle.
Parce que là, vous l'avez dit de mémoire, hein ?
Oui, oui, je l'ai dit de mémoire. Je le dirai probablement avant la chanson « Monsieur ». Parce que, en fait, comme dans ce disque, « Le choix de la reine », dans le spectacle, je vais associer certains textes que j'ai écrits pour mon livre « Dieu sur Terre
». Qui est paru à l'Iconoclaste.
À l'Iconoclaste.
En 2023.
Il y a 2 ans. Et les associer aux chansons qui évoquent les mêmes thèmes. C'est un éclairage porté sur ces chansons que de les associer à ces textes-là. Un éclairage nouveau. Donc, comme d'ailleurs, les percussions du trio SR9 sont aussi un éclairage nouveau pour mes chansons.
De toute façon, vous avez toujours aimé, comme beaucoup d'artistes, vous renouveler à chaque fois.
C'est-à-dire que le goût de la création est devenu tellement vital pour moi que je m'y réfugie dès que j'ai une contrariété. Dès que je suis triste, dès que j'ai une peine, dès que j'ai un stress.
Vous écrivez ou vous composez ?
J'écris. D'abord parce que l'écriture, c'est beaucoup plus mobile. On peut écrire n'importe où dans un coin, dans un petit recoin, on peut se mettre à écrire quelque chose. La musique, c'est plus compliqué, il faut un peu de calme, de s'isoler, etc.
On n'a pas sa guitare sur soi partout.
Mais non.
On va écouter Dali. Qui est Dali ?
Alors Dali, c'est un jeune... auteur, compositeur, interprète.
23 ans.
23 ans, il a déjà un style très prononcé, je trouve du style. J'aime aussi sa fausse naïveté. Bon, on me l'a souvent dit ça de moi, alors c'est peut-être que je retrouve un écho de mon goût. Il a aussi une certaine forme de mélancolie. Et puis, il arrive à tisser des liens entre la pop et le rap d'une façon intéressante. Et c'est des questions, les gens, enfin en tout cas moi, qui n'ai pas grandi avec le rap, je suis souvent interrogé comment on pourrait faire pour justement associer, sans être ridicule. Bon, alors moi, j'ai jamais réussi.
Le rap et la chanson française, voilà. Telle que vous la pratiquez ?
Oui.
Ouais. Vous avez cherché ?
Je me suis posé la question, en tout cas, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser.
Mais vous allez trouver.
Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il arrive justement à faire, introduire de la pop dans le rap d'une façon qui est tout à fait naturelle et fluide. Et puis, il a une façon aussi de sculpter, en quelque sorte, sa voix. Il est habile à faire ça. Voilà.
Voilà, Dali, tout va bien.
Elle me rend beau. Le matin élégant. J'ai beaucoup de défauts. Avec elle, je mets les gants. Avec elle, je mets les gants. Je sais que je suis chelou de temps en temps. Je lui dis des mots d'amour dans l'oreille de temps en temps. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sous la semelle. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est juste le timbre de ta voix ou la courbure de tes fesses. J'aime bien quand t'es là, que tu montres comment faire. Et chuchote que ça va avec ses yeux brillants pour le ciel. Tout va bien, t'es belle, tu le portes bien. Je me dis que tu ne portes rien, tu peux voler si tu te prends, je me dis à toi bien. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle. J'ai pris les talons beige qu'elle aimait. C'est avec le rouge sur la semelle.
Vous avez, Thomas Fersen, comme grands aînés, je ne sais pas si ce sont des passions, mais en tout cas un goût prononcé, par exemple pour Gainsbourg. Chez lui, vous prenez quoi ? Sa première période, l'époque où il écrit, où il invente des mots parfois, où il joue avec les mots, comme vous aimez le faire ?
Oh ben, bien sûr, on ne peut pas être insensible à son élégance, à l'élégance de cette période en tout cas. Dans son écriture, sa fantaisie, son humour... son inventivité, sa maîtrise de la langue, son dandysme, voilà, toutes ces choses-là.
Il y a Gainsbourg, que vous aimez, il y a aussi Polnareff. Et vous aviez envie d'écouter une chanson précise de lui aussi, il y a beaucoup de tubes. Vous avez choisi laquelle, Thomas Fersen ?
Amkaline, oui. En fait, moi j'ai découvert la musique à travers le mur de ma chambre, parce que ma sœur a acheté des disques de pop et quelques disques de chansons françaises, dont elle aimait beaucoup Michel Polnareff, par exemple. Et donc, je lui prenais ses disques quand elle n'était pas là, en cachette. Et je les écoutais sur mon propre TEPAZ, puisqu'à l'époque, j'avais la chance, mais mon père m'avait acheté cet appareil. Parce que je pense qu'il redoutait que je touche à sa chaîne Hi-Fi.
Il paraît que quand on posait un disque sur la chaîne, il fallait des gants blancs.
Il fallait mettre les gants blancs. Il était plaqué en faux chaîne, cette... Alors il avait toujours peur que j'écrase le diamant. Enfin bon.
Donc un TEPAZ.
Donc il m'avait acheté un TEPAZ et donc je mettais ça dans ma chambre. Et ça d'ailleurs, ça portait les histoires que je me racontais et que je jouais. Je mettais déjà de la musique de film.
Avec
mon
petit costume.
Et avec mon costume. Et alors. À cette époque, avant ma puberté, j'avais une voix très haute, comme ça, donc je chantais avec aisance les chansons de Michel Polnareff, et je veux dire que j'aimais beaucoup. Oui.
On se replonge chez Polnareff, Amkaline dans la balade.
Amkaline, je suis cœur libre tous les jours,
Adolescent Thomas Perset se rend compte qu'il ne sera jamais Paul Naref.
Non, parce que ma voix a changé, elle s'est éraillée. J'écoutais cette chanson, elle a des ailes d'oiseau, cette chanson.
Ah, c'est beau.
Ah oui, elle est aérienne, comme ça. C'est un peu une Madeleine aussi, cette chanson pour moi. Ouais.
Là, en ce moment, il y a cette sortie de disque et cette préparation de tournée avec trois percussionnistes, mais qui ont beaucoup de percussions dans leur sac, dans leur bagage. Est-ce que parfois, vous avez envie d'orchestre symphonique, de grosses formations, de cordes à outrance?
Alors, je partage ma vie avec une violoniste qui me fait part de l'exaltation d'être au sein, de jouer au sein de l'orchestre.
Ah oui?
Alors ça, c'est un sentiment que je ne connais pas. Enfin, j'ai enregistré avec des grandes formations dans mes trois premiers albums, il y avait des grosses formations. J'ai goûté comme ça, furtivement, ce plaisir.
Dans le premier disque?
Surtout le deuxième et le troisième, ouais. Avec les arrangements de Joseph Racaille. Oui.
Les années 90.
Oui, on a enregistré au studio Davou, qui n'existe plus. Et c'était des grandes formations. Il y avait, 40 musiciens. Oui. Et j'aimais beaucoup ça.
Est-ce que parfois vous souffrez un peu de la solitude de l'auteur-compositeur? C'est-à-dire que vous devez vous isoler pour écrire. Pas forcément aller bien, vous le disiez tout à l'heure, quand vous avez une contrariété ou un chagrin, hop, c'est l'écriture qui prime.
C'est l'écriture qui me sauve du monde,
oui.
Et de tout. Non, pas du tout, c'est jamais une souffrance. Alors, vous parliez de solitude, je ne connais pas la solitude. Je connais l'état solitaire, ce qui n'a rien à voir, parce que c'est un état qui est choisi. La solitude, on la subit. Et là, j'ai la chance de ne pas la subir. Tout moins, quand je la vois pointer son nez, ben j'arrive à aller à la rencontre des autres vite pour me sauver d'elle.
Quand vous écrivez, est-ce que des musiques, des mélodies viennent vite dans votre tête? Et est-ce que vous vous précipitez rapidement sur un instrument?
En fait, je pense beaucoup moins musique depuis quelques années. En général, c'est pas quelque chose qui se provoque, c'est un désir. D'ailleurs, j'ai fait une chanson inédite qui est sur ce disque, en 5 ans, parce qu'elle s'est imposée à moi. C'est-à-dire que j'ai eu cette phrase qui est venue, ça s'entend pas dans mon phrasé, que je suis blasé. Je me suis dit, ça c'est vraiment les propos d'un adolescent, oui. Blasé. Il y a tout dans cette phrase. D'abord, c'est un alexandrin, il est coupé au 8e pied, donc la césure n'est pas au milieu, c'est marrant. Et puis, donc ça donne une rythmique un peu singulière qui est vraiment celle du personnage un peu blasé qui traîne un peu la patte, quoi.
Et le clip existe, là?
Alors on a fait la chanson, on l'a enregistrée avec Clément, puis j'ai demandé à Vincent Delerme de réaliser le clip, oui, parce que d'abord Vincent, je lui avais demandé de réaliser la photo pour l'album, et puis dans la foulée, je me suis dit, mais ce serait une bonne idée que ce soit lui qui fasse le clip aussi, voilà, donc on a fait ça chez moi, et avec son fils, voilà, une copine de son fils.
Le fils Sacha, l'aîné de Vincent Delerme, voilà. Qui joue très bien d'ailleurs avec vous.
Il est très bien, il est très bon.
On a même cru dans l'équipe que c'était votre fils.
Ben, c'est donc qu'il joue très bien.
Clara Isée, dans la vie de Thomas Fersen, c'est quelqu'un que vous écoutez beaucoup ?
Alors, Clara Isée, je l'ai rencontrée dans un autre contexte. C'était aux rencontres littéraires que tenait Didier Varro au Francophonie de La Rochelle. Et on était invités pour nos livres respectifs. Voilà, j'étais donc, on attendait de monter sur le plateau pour discuter avec Didier. On était donc derrière tous les deux et j'ai senti quelqu'un de très délicat, discret et en même temps une grande force intérieure, une grande maturité aussi. Pas d'excitation futile, voilà, quelqu'un de profond. Et puis, j'ai appris qu'elle était chanteuse aussi, et je retrouve ce que je viens de dire dans sa voix, dans ses chansons. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'elle ferait partie de la famille de Barbara, pour moi. Elle a aussi cette... dans la voix, cette... comment dire... cette force, oui, cette assurance... qui ne s'impose pas, mais qui est là d'elle-même.
Elle vient du chant lyrique.
Oui, elle a une voix pleine. Et voilà, donc je pense que c'est quelqu'un d'important.
Bien, on l'écoute, Clara Isée, chanter « On s'aimera ».
Et sa chanson reste en tête.
Chasse la tristesse de ce regard. Depuis quelques jours, je te sens hagard. Est-ce que tu la sens venir, la fin de notre histoire ? Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux garder ton amour et qu'épare comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, tendresse pleine d'espoir, tout ce que tu donnes sans le savoir, et la façon dont tu rêves le soir. Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux protéger notre histoire comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera. Peut-être que plus vaste on sera, alors on s'aimera, on s'aimera. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira,
vous aimez les jeux de mots, Thomas Fersen, tous vos amis le disent.
J'aime pas trop les jeux de mots, je suis pas d'accord.
Vous voyez comme ils sont mauvaise langue.
J'aime le langage. J'adore le langage. J'ai une fascination pour le langage et les langages. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on écoutait Dali, c'est un langage. Et ça m'attire. Quand je suis allé au Québec, j'étais fasciné par l'intelligence, la richesse, l'appropriation des mots américains, c'est extraordinaire.
Traduit, oui.
Oui, cette appropriation, là, j'aime le langage, je suis très sensible. Pour moi, c'est une poésie permanente.
Dans la chanson Blasée, Thomas Fersen, vous dites à un moment, mon père, à chaque anniversaire, m'offrait des livres. Je dis mal la chanson, mais comme ça, de mémoire, rapidement. Est-ce que c'était le cas chez les Fersen? Est-ce qu'on vous donnait offrait un livre à chaque anniversaire?
Encore un pavé comme cadeau, d'Émile Zola.
Oui.
Oui, bah écoutez, mon père m'a essayé de me faire lire. Mon père, d'abord, était un grand lecteur. Bon, donc, ma sœur aînée aussi. Il y avait un environnement littéraire dans la maison. Il y avait des livres, une bibliothèque, bon... Et donc je voyais le pouvoir de la langue. Et puis, mais le goût du langage, je l'ai eu aussi dans la rue. Je l'ai eu à l'école communale, parce que par les blagues et les chansons paillardes, j'ai senti la percussion que ça pouvait avoir sur un jeune esprit, le mien. Et donc j'avais le goût du langage. Et mon père, oui, a essayé de me faire lire, par exemple, pendant des années, il voulait que je lise La Montagne Magique de Thomas Mann. Bon. J'étais trop jeune, j'étais dans l'adolescence, et autant j'étais lecteur quand j'étais enfant, autant la grande catastrophe de l'adolescence a bousculé tout ça, et donc je n'ai plus lu du tout jusqu'à l'âge de 24 ans, entre 14 et 24 ans. J'écoutais du rock dans ma chambre, j'étais tourné vers la musique, mais je ne lisais plus. C'est revenu parce que justement, quand j'ai eu 24 ans, j'ai fait mon deuxième grand voyage tout seul, et avant de partir pour ce deuxième voyage, j'ai vu ce livre... La Montagne Magique qui était là depuis des années, et je l'ai mis dans le sac. Et non seulement ce livre a été mon compagnon de voyage, mais il a ouvert la porte à tous les autres, et j'ai senti que la solution, l'issue pour moi, c'était dans les livres, que j'allais trouver des solutions à mon existence, à mes problèmes, et que j'allais vivre 1000 vies, que j'allais vaincre le temps et la mort et l'espace grâce à la littérature. Tout ça, je l'ai pas formulé, mais je l'ai éprouvé. Et donc, je me suis plus jamais arrêté de lire à partir de là. Et effectivement, ça n'a pas été démenti par la suite, puisque j'ai vécu plusieurs vies, comme tout lecteur, grâce à la littérature. Et puis, j'ai développé mes connaissances, mon esprit, ma façon d'écrire. Enfin, j'ai été à l'école autodidacte des lettres. En allant comme ça, guidé par mon nez, chercher un livre, le choisir au titre, parfois sans rien connaître, comme je le faisais d'ailleurs avec les disques de pop quand j'étais plus jeune. Et donc, c'est comme ça que j'ai été imprégné. J'ai pas fait d'études de lettres, mais j'ai été imprégné par mon environnement.
Et vous aimez les rimes, vous écrivez en vers.
Alors le
Thomas
vers,
Fersen.
Mon goût pour le vers vient de la chanson paillarde. Et j'ai trouvé dès le départ j'ai découvert ça quand je suis entré au cours préparatoire en habitant en banlieue. Paradoxalement, il n'y avait pas d'argot dans mon environnement en banlieue. J'ai découvert l'argot et tout ça, ce réflexe de désobéissance quand je suis arrivé en cours préparatoire dans le 20e arrondissement. Un gars est monté sur une table et il a chanté une chanson paillarde. J'ai été ébloui. J'ai pris ça en pleine poire. Et donc il y avait effectivement la rime, mais la rime associée à cette insolence, à cette désobéissance, à cet esprit de liberté absolue. Bon, évidemment il y avait des cochonneries, ça me séduisait aussi, mais c'était pas tout. Et c'était, je pense que j'ai vraiment ressenti, été touché par la force du langage. Et donc depuis, je me suis acharné à écrire en vers, voilà, à cause de ça. C'est pas du tout pour les grands classiques que je ne connaissais pas, que j'avais pas lu. C'était vraiment par cette école pauvre de la rue et de la chanson paillarde qui s'inscrit dans l'oralité, qui n'était pas quelque chose d'écrit. Il y a dans mes chansons quelque chose de la ritournelle paillarde, cette espèce de côté un petit peu rengaine comme ça. C'est enfantin, c'est naïf, mais voilà, j'y suis. Ça m'a tellement marqué que j'ai jamais pu m'en détacher, finalement.
Zao de Sagazan, est-ce que c'est sa plume qui vous séduit, sa voix, son équilibre? Elle est très jeune et très équilibrée, en tout cas elle renvoie cette image-là, elle était venue dans l'émission, dans la balade. Qu'est-ce qui séduit Thomas Fersen?
C'est tout à la fois. Tout à la fois, c'est quelqu'un d'entier, absolument entier, une grande personnalité, une voix, une qualité d'interprétation, une invention, une créativité, une justesse, enfin tout. Vraiment, c'est pour moi une artiste absolument complète. Quoi, voilà.
Tout est en place.
Oui. Alors, il y a des êtres comme ça qui ont ce talent dès leur plus jeune âge. C'est fascinant.
Je lui ai demandé, vous avez peur d'aller sur scène? Elle dit, pas du tout, je suis très heureuse. Elle chante Parler l'amour, Zao de Sagazan.
Découvre-toi, couvre ma bouche, comme l'autre fois. Quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
C'est bien ça comme titre pour se quitter, Parler l'amour. Ça vous va, Thomas Fersen?
On part avec un beau bagage.
Le disque Le Choix de la Reine sort le 28 février. Chez Tôt ou Tard, vous revenez à la maison. Votre livre s'intitule Dieu sur Terre à l'iconoclaste. Et la tournée commence le 19 mars, entouré de 3 percussionnistes, avec cette volonté, encore une fois, de faire du théâtre votre passion, de faire une image visiblement plus en mouvement qu'une image figée.
Oui.
L'ai-je bien résumé?
Et surtout, je pense que au théâtre, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à montrer l'invisible. Et il y a quelque chose d'un peu mystique dans ça, mais qui me convient très bien. Et de montrer l'invisible et de vivre ça, c'est un moment de communion. Et la communion, c'est quelque chose de plus en plus rare dans nos sociétés, parce qu'on vit de moins en moins ensemble. Et ça existe encore dans le spectacle vivant et dans le sport. Voilà.
Le 5 juin, vous serez où?
Le 5 juin, je serai au Châtelet.
Eh oui, oui, à Paris, au Théâtre du Châtelet. Et la tournée reprendra après l'été, et même pendant l'été dans les festivals.
Alors oui, on joue jusqu'au 19 juillet, là, cette année. Puis après, on va faire toute la saison 25-26 avec le trio SR9.
Voilà, et vous avez un grand sourire quand vous dites ça.
Oui, parce que je suis peinard sur scène. C'est-à-dire qu'on est, on est dans un autre monde, les codes sont différents, on est dans une protection comme ça autour de nous. Et c'est délicieux. Il faut. Et puis, c'est pas un tribunal. On y va pour vivre un moment de communion avec les autres. Alors, on a préparé quelque chose, voilà.
On a quelque chose à offrir.
On a quelque chose à proposer, oui.
Anne Weinfeld réalise la balade, Fanny Leroy m'aide à la préparer, Valentine Chedebois programme la musique, il y avait à la technique, Élise Christophe. Demain, je vous propose de nous retrouver sur France Inter à 17h dans le grand atelier qui accueille la comédienne Élodie Bouchèze.